Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Maniakiza à la présentation de cette édition du lundi 17 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. Au moins 9 morts au Burkina dans une attaque dans le nord. 12 civils tués dans une région disputée entre Soudan et Soudan du Sud. Paris promet 1,5 milliard de dollars au Soudan sous la forme d'un prêt relais. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, appelle Israël et les Palestiniens à protéger les civils et les enfants. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Une grève à l'appel de la principale organisation syndicale malienne a paralysé lundi les banques et les services publics à Bamako. L'Union nationale des travailleurs du Mali, syndicat de fonctionnaires et de salariés du secteur privé, a lancé lundi son mouvement de grève de 4 jours après l'échec de négociations avec le gouvernement sur les salaires, les primes et les indemnités. Son groupement syndical brandit la menace d'un mouvement illimité. Une délégation de la CDAO et de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a rencontré lundi les leaders de ce mouvement. Elle leur a demandé d'attendre la formation d'un nouveau gouvernement, a rapporté Ousmane Traoré pour l'organisation syndicale. Le maintien de Mokhtar Ouane dans ses fonctions fait grincer des dents. Le mouvement du 5 juin, collectif qui fut l'an dernier le fer de lance de mois de manifestations achevées par le putsch d'août, a exprimé son refus de participer à la formation d'un nouveau gouvernement. Je vous le disais dans les titres, au moins 9 personnes, dont 3 supplétifs civils enrôlés dans la lutte anti-djihadiste au Burkina Faso, ont été tués. C'était dimanche lors d'une attaque dans la commune de Pisila, dans le nord du pays. Rosine Mounezero pour plus de détails.
Des éléments des groupes terroristes ont attaqué le village de Passegui dans la commune de Pisila dimanche matin, faisant 9 morts parmi les populations selon les sources sécuritaires. La riposte qui a été menée avec le soutien des forces de défense et de sécurité FDS a permis de neutraliser les terroristes, de procéder à l'enlèvement des corps et de lancer un ratissage selon les mêmes sources. Le bilan n'est pas encore connu en ce qui concerne le nombre de djihadistes tués. Le 5 mai, les forces armées du Burkina Faso ont lancé une opération dans les régions du Nord et du Sahel pour arrêter les violences djihadistes. Ces attaques ont fait plus de 17 000 déplacés en 10 jours.
5 djihadistes présumés ont été tués lundi dans une opération des forces tunisiennes dans le mont Chami, l'un des principaux maquis djihadistes du pays, frontalier de l'Algérie, a indiqué le ministère tunisien de l'Intérieur. Direction la Corne de l'Afrique, à présent, 12 civils ont été tués dans une région pétrolifère revendiquée par le Soudan et le Soudan du Sud. Les autorités sud-soudanaises ont affirmé ce lundi que ce massacre avait été commis par des bergers nomades soudanais. Claire Maurice-Jupour.
L'attaque a eu lieu dimanche matin dans un village situé à environ 65 km à l'est d'Abyé, dans une région placée sous la protection de l'ONU depuis 2011. Con Magnette, administrateur adjoint de la zone, affirme que des éleveurs Miseria soudanais ont pris d'assaut le village de Dungob avant l'aube, attaquant la zone depuis 3 directions différentes. 12 personnes ont été tuées, 7 gravement blessées. Monsieur Matioc a également imputé à ses bergers la responsabilité d'un autre incident vendredi, dans lequel un homme âgé a été tué et un autre blessé. Les autorités soudanaises n'ont fait aucun commentaire. Un porte-parole de la force intérimaire de sécurité des Nations Unies à Abyé a fait état d'un bilan de 11 morts et a indiqué qu'une enquête avait été ouverte. Le 11 mai, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé jusqu'au 15 novembre la mission de maintien de la paix de la FISNUA, faute d'avoir pu obtenir un accord entre le Soudan et le Soudan du Sud. La région d'Abyé est contestée par les deux pays depuis que le Soudan du Sud a obtenu l'indépendance du Soudan en 2011.
Un total de 31 manifestants arrêtés vendredi lors des marches du mouvement de protestation du Irak en Algérie ont été condamnés à des peines de prison ferme. Selon la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, 13 autres manifestants arrêtés vendredi ont été incarcérés dans l'attente de leur procès qui a été remis à une date ultérieure, ce qui porte à 44 le nombre total de manifestants placés sous mandat de dépôt. Des saisies de drogue d'une valeur de près de 100 millions d'euros ont été réalisées en Afrique et au Moyen-Orient lors d'une vaste opération policière internationale en mars et avril, a annoncé lundi Interpol. Le trafic de drogue est une menace que nous combattons collectivement et les saisies massives opérées durant l'opération Poisson-Papillon montrent ce qu'il est impossible de faire quand les forces de l'ordre luttent ensemble, a déclaré Jürgen Stock, secrétaire général de l'Organisation internationale de police criminelle, dont le siège est à Lyon. Conférence internationale des chefs d'État africains et des bailleurs de fonds à Paris, la France promet 1,5 milliard de dollars au nouveau Soudan démocratique pour alléger le fardeau de sa dette et lui permettre de réintégrer les circuits financiers internationaux. Le point avec Eddy Issango.
Emmanuel Macron a confirmé l'engagement financier de la France lors de la conférence qui est en cours à Paris. Il s'agit d'un prêt d'1,5 milliard de dollars que le président français avait déjà promis au premier ministre soudanais Abdallah Hamdok lors de la visite de ces derniers en France en septembre 2019, 6 mois après la révolution qui avait mis fin aux 30 ans des règnes sans partage d'Omar El-Béchir. Le prêt servira à éponger les arriérés de la dette du Soudan au FMI. Pour M. Macron, les progrès que le Soudan réalise est une inspiration et devrait convaincre les investisseurs qu'un marché réel existe au Soudan de l'après-Béchir. À Paris, une trentaine de dirigeants africains et européens ainsi que des institutions multilatérales discutent à l'initiative de M. Macron pour trouver des solutions inédites à la crise des finances en Afrique. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a rencontré le président Félix Tshisekedi et lui a annoncé l'octroi d'1,5 milliard de dollars à la RDC au titre d'une dotation supplémentaire relative aux droits de tirage spéciaux, encore en discussion au G20.
Le procès pour corruption de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, qui devait commencer lundi, a été reporté au 26 mai. Ce procès pour une affaire de pot de vin vieille de plus de 25 ans avec le groupe français Thales a déjà été reporté plusieurs fois, l'ex-président multipliant les recours. Monsieur Zuma, 79 ans, doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et rackets liés à l'achat en 1999 de matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes alors qu'il était vice-président. Toujours en Afrique du Sud, Pretoria a lancé lundi sa campagne de vaccination à grande échelle visant en priorité les plus de 60 ans et les personnes à risque. L'Afrique du Sud n'a vacciné qu'un pour cent de sa population jusqu'ici lors d'une première phase d'essais cliniques auprès des personnes de santé plusieurs fois suspendues.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Alors que le regain de tension au Moyen-Orient entre sa deuxième semaine, les deux parties restent sourdes aux appels de la communauté internationale à une cessation des hostilités. À Gaza, au moins 200 personnes ont perdu la vie. Le chef de la diplomatie américaine appelle à protéger les civils. Abdulrahman Dia.
Anthony Blinken indique que Washington continuera à mener une diplomatie active pour mettre fin à ce cycle de violence, assurant multiplier les contacts en coulisses. À Copenhague, le chef du département d'État a une nouvelle fois apporté le soutien des États-Unis au droit d'Israël à se défendre. Nous appelons donc le Hamas et les autres groupes à Gaza à mettre immédiatement fin aux attaques de roquettes, a insisté le secrétaire d'État. Il estime toutefois qu'Israël, en tant que démocratie, a un devoir supplémentaire pour faire tout son possible pour éviter des victimes civiles. Cela concerne, selon Anthony Blinken, notamment les journalistes après la frappe israélienne qui a détruit samedi à Gaza un immeuble abritant des médias internationaux. Le secrétaire d'État a redit l'inquiétude de Washington au sujet de la protection des médias, sans aller jusqu'à condamner la frappe de l'État hébreu. Anthony Blinken s'est aussi défendu d'avoir fait obstruction au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire adopter une déclaration appelant à la fin des hostilités. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'aviation israélienne a encore pilonné à des dizaines de reprises la bande de Gaza où des groupes armés, dont le Hamas, ont tiré des roquettes vers Israël.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Pour l'actualité économique, nous retrouvons ce soir John Lindon pour la Minute Éco.
240 millions de dollars, c'est la somme que le FMI, le Fonds monétaire international, va débloquer en faveur du Togo. Kristalina Georgieva, la directrice générale de l'institution, en a fait l'annonce dimanche. Ces ressources financières supplémentaires devraient appuyer le pays dans le cadre de la relance post-COVID-19. Le Togo s'est montré efficace dans la gestion de la crise, a indiqué la Bulgare, citée par les services de la présidence togolaise dans un compte rendu de sa rencontre avec les autorités. En Côte d'Ivoire, après un bénéfice après impôt d'un peu plus de 5 milliards de francs CFA en 2019, la CITAB, la Société ivoirienne des tabacs, a consolidé sa rentabilité au terme de l'exercice 2020 avec un profit de plus de 8 milliards de francs CFA. À en croire Financial Afrique, entre 2019 et 2020, la CITAB a augmenté son bénéfice de plus de 3 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 61% en valeur relative. Pour sa part, le chiffre d'affaires de la société a connu une hausse de 21 milliards de francs CFA pour se situer à 116 milliards de francs CFA. Le groupe américain de télécommunications AT&T va fusionner sa filiale Warner Media avec Discovery, créant un nouveau mastodonte du divertissement pour mieux tenir tête à Netflix et autres géants du streaming. Cette opération, qui devrait se conclure mi-2022, combine deux des plus grands groupes de médias aux États-Unis. Le chiffre d'affaires anticipé de la nouvelle entreprise est d'environ 52 milliards de dollars à l'horizon 2023.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Ce soir, Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir à tous. Le ton a été donné hier à Kigali, le Rwanda en particulier, l'Afrique en général et le reste du monde vibre au rythme de la Basketball Africa League. Une compétition initiée par la NBA avec le soutien de la Fédération internationale de basketball. 12 des meilleures équipes de basket du continent sont aux prises pour l'attribution du tout premier trophée de la balle. 3 matchs au programme aujourd'hui. Dans le premier déjà disputé, les Sénégalais de l'AS Douane ont dominé les Algériens de JS Pétrolier 94 à 76. À suivre aussi ce soir, US Monastir de la Tunisie, GNBC de Madagascar. Cyclisme, et nous prenons la direction du Bénin, le Burkinabé Paul Dumont remporte la première étape de cette année, courue aujourd'hui entre Djougou et Boukoumbé, 123 km. Nous retrouvons à Boyukon au Bénin notre correspondant Élisée Mpatine.
Paul Dumont remporte la première étape du Tour cycliste international du Bénin. Cette étape longue de 123 km courue entre Djougou et Boukoumbé au nord du pays a été animée du début jusqu'à la fin par les Burkinabés qui ont finalement occupé les 6 premières places. Dumont endosse du coup le maillot jaune. Pour lui, c'est une victoire d'équipe.
Je pense que c'est le collectif. On s'est très bien entendu. Je remercie mes coéquipiers de m'avoir soutenu tout au long de l'étape. C'est eux qui m'ont permis de me mettre à l'avant et de pouvoir attaquer dans les meilleures conditions. À tour de rôle, ils ont lancé des attaques pour essayer d'affaiblir les adversaires pour que lorsque je puisse sortir maintenant, je sois un peu plus facile.
A noter que Idrissou Bashiki, premier Béninois classé 7e, pointe à 3 minutes 50 secondes. Au total, 1802 km à parcourir en 6 étapes pour la 16e édition de ce Tour du Bénin qui va s'achever le 22 mai prochain par un critérium à Cotonou. Boycon, Élisée Mpatine, VOA Afrique.
Football avec des quarts de finale aller des interclubs de la CAF en Ligue des Champions. Les Tanzaniens de Simba ont été corrigés 4-0 en Afrique du Sud par les Kaizer Chiefs. Ça passe mal en revanche pour le second représentant sud-africain, les Mamelodi Sundowns, battu 2-0 au Caire par Al Ahly, qui a fait respecter son statut de champion en titre. 2-0 également en faveur des Algériens du CR Belouizdad, qui crée ainsi la surprise. devant l'Espérance de Tunis et puis nul un but partout entre le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Casablanca. En Coupe de la Confédération, belle opération pour les Algériens de la JS Kabylie, vainqueur 1-0. Sur le terrain des Tunisiens de Sfax, les Égyptiens de Pyramide ont assuré à domicile 4-1 face aux Nigériens d'Enimba, tout comme le Coton Sport de Garoua 1-0 contre le Jaraf de Dakar. Enfin, le Raja de Casablanca ramène un nul, un but partout d'Afrique du Sud face à Orlando Pirates. Les matchs retour sont prévus pour le week-end.
À l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Eric Mandrakiba de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. L'Union africaine sortira incessamment son communiqué sur la suspension au nom du Tchad dans l'instance africaine suite à la prise du pouvoir par le conseil militaire dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, fils du défunt président Idriss Déby. La décision de ne pas sanctionner la junte militaire a été prise par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, mais elle est en attente de validation. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Dakar l'analyste spécialiste de l'Union africaine, Ibrahim Akan.
L'absence de sanctions, c'est lié d'abord aux circonstances du décès du président Déby. C'est aussi lié à l'instabilité que connaît le Tchad avant même le décès du président Déby. Vous savez qu'il y avait des bruits de boîtes un peu partout, particulièrement vers le nord du pays. Le Tchad est maintenant tellement impliqué dans les actions de lutte contre le terrorisme ou des actions de défense de la sécurité de certains pays. Il semblait un tout petit peu compliqué de vouloir sanctionner un pays qui intervient de façon si massive sur les champs militaires du continent.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de deux poids, deux mesures? On se rappelle récemment, lorsque les militaires ont pris le pouvoir à Bamako, cela fait l'objet de sanctions de la part de l'Union africaine.
Deux poids, deux mesures, peut-être que je n'irai pas aussi loin, mais je sais que depuis un certain temps, pratiquement depuis le printemps arabe, l'Union africaine a essayé d'adapter le logiciel du changement institutionnel de gouvernement aux situations. En Égypte, si vous vous rappelez bien, après la chute de Morsi, les militaires sont venus au pouvoir. Al-Sisi, qui avait pris le pouvoir, s'est même civilisé, c'est-à-dire a quitté l'armée pour être président de la République. Tout cela n'avait pas été considéré à l'époque comme changement anticonstitutionnel de gouvernement parce que l'Égypte jouait un grand rôle non seulement dans le monde arabe, mais dans l'Afrique du Nord. Donc je pense que c'est cette tendance-là qui est en train de se dessiner.
Justement, on sait qu'au Tchad, par exemple, il y a eu plusieurs manifestations contre cette prise du pouvoir par la junte militaire, et ça continue. Est-ce que finalement, on ne met pas la voix du peuple aussi à côté?
Il semble que le texte insiste d'abord sur la transition, que la transition ne doit même pas dépasser 18 mois. Et le texte insiste sur le respect d'un certain nombre de règles et de principes, notamment le respect des libertés publiques, la possibilité pour les citoyens d'exprimer leur vue. Mais je pense que sur cette question, il faut aussi que l'Union africaine commence à utiliser ses institutions pour pouvoir faire un travail consistant. Vous avez vu que cette mission du Conseil de paix et de sécurité s'est rendue en Ndjamena sans un membre de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, alors que dans le protocole relatif au Conseil de paix et de sécurité, il y a une disposition, l'article 19, qui concerne les relations entre la Commission africaine des droits de l'homme et le Conseil de paix et de sécurité. Tout le monde savait, avant le départ de la délégation, qu'il y avait des problèmes de droits de l'homme. Or, s'il y avait un membre de la Commission africaine, on aurait pris le temps et le soin dans le rapport de mission, de mentionner ces éléments, ces aspects-là, et de montrer ce qu'il fallait exactement faire par les autorités de la transition pour que le respect des droits de la personne puisse être effectivement respecté.
L'analyste politique et spécialiste de l'Union africaine, Ibrahim Akan, joint à Dakar, au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Les organisations musulmanes américaines ont boycotté hier à la Maison-Blanche la célébration virtuelle de l'Aïd marquant la fin du Ramadan. Elles entendaient ainsi protester contre ce qu'elles considèrent comme un soutien de l'administration Biden à la violence israélienne contre les Palestiniens. Reportage de Patsy Widakuswara, rendu par Nani Tetalani.
L'Aïd al-Fitr est généralement un moment de joie et de célébration pour les musulmans du monde entier. Mais cette année, la fête a été gâchée non seulement par la pandémie de COVID-19, mais aussi par l'escalade de la violence entre Israéliens et Palestiniens, ce qui a provoqué le boycott de certaines organisations musulmanes américaines. Robert Markow travaille au Conseil pour les relations américano-islamiques.
Le Conseil américain de relations islamiques a rejoint d'autres organisations musulmanes nationales américaines pour boycotter la célébration virtuelle de l'Aïd de la Maison Blanche ce soir en raison de la réponse croissante et décevante de l'administration Biden aux violences des droits humains du gouvernement israélien contre les Palestiniens à Gaza et à Jérusalem-Est.
Depuis Bill Clinton, en 1996, les présidents américains ont accueilli l'iftar ou la rupture du jeûne du Ramadan à la Maison Blanche. Cette année, le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden ont organisé l'Aïd virtuellement. Jill Biden, première dame des États-Unis.
Nous pouvons voir l'esprit de ces journées dans les millions d'Américains musulmans qui rendent notre pays plus fort chaque jour, y compris les nombreux travailleurs courageux sur les lignes de front.
Le président Biden a reconnu que le conflit israélo-palestinien pèse lourdement sur les musulmans du monde entier. Samedi, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les grandes villes américaines, notamment Washington, New York et Boston, exigeant que le gouvernement Biden fasse plus d'efforts pour lutter contre les violations des droits humains commises par le gouvernement israélien contre les Palestiniens. Seyam Eshek est palestino-américaine.
Nous sommes fatigués des meurtres d'innocents. Nous sommes fatigués de l'occupation.
Faisons valoir le droit d'Israël à la légitime défense. Son ambassadeur à l'ONU, Gilad Erdan, a affirmé dimanche devant le Conseil de sécurité de l'ONU que le conflit était prémédité par le Hamas.
Ce n'est pas la première fois que le Hamas tire sans discernement des missiles mortels sur des civils israéliens alors qu'ils se cachent derrière les civils palestiniens.
Au cours du week-end, Biden s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. L'administration américaine a également dépêché des envoyés dans la région. Parmi ces personnes se trouve Mérissa Kourma, directrice de programme Moyen-Orient au Wilson Center.
Les mesures les plus immédiates qui doivent être prises par les États-Unis et qu'ils semblent prendre, c'est de jouer un rôle dans la désescalade et de faire en sorte que nous ne voyons pas cette violence actuelle exploser et échapper à tout contrôle.
Avant les violences, Biden avait fait peu d'efforts pour relancer les négociations de paix bloquées. Maintenant, il est sous pression pour le faire, non seulement de la part des musulmans américains, mais aussi des législateurs de l'aile progressiste du Parti démocrate.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un nombre croissant de personnes dans le monde meurent de maladies cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébraux à cause du surménage, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation internationale du travail. L'étude est basée sur les données de plus de 2300 enquêtes collectées dans 154 pays de 1970 à 2018. Le point avec Lisa Schlein, le récit est de Nathalie Barge.
L'étude indique que ceux qui travaillent au moins 55 heures par semaine courent un risque plus élevé de mourir d'un arrêt cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral. Les données de 2016 montrent que sur 450 millions de personnes dans le monde, soit une sur 10 qui travaillent trop longtemps quotidiennement, 745 000 sont décédés de maladies cardiovasculaires. Ce chiffre est en hausse de 29%. % depuis 2000, précise Franck Pega, responsable technique au département de l'environnement et de la santé de l'OMS.
Nous savons que ce fléau affecte de manière disproportionnée les hommes. 70% des décès dus à des maladies cardiovasculaires surviennent chez les hommes, selon nos estimations officielles. En outre, les régions les plus touchées sont l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental, et il semble que les travailleurs d'âge moyen et les plus âgés soient surchargés de façon disproportionnée.
L'étude rapporte que la plupart des décès dus aux maladies cardiovasculaires concernent les personnes de 60 à 79 ans qui ont travaillé 55 heures ou plus par semaine. Le nombre le plus bas enregistré se trouve en Afrique, qui a une population jeune. L'Europe et l'Amérique du Nord ont les taux de maladies professionnelles les plus bas, car les habitants de ces régions sont généralement couverts par des règlements qui limitent les horaires de travail. Toutefois, le télétravail et la numérisation semblent accélérer la tendance aux longues heures de travail.
Lorsque les pays sont entrés en verrouillage national, le nombre d'heures de travail a augmenté d'environ 10%. Il y a aussi une sorte d'augmentation massive de la numérisation du travail qui pourrait rendre la déconnexion plus difficile. Des temps de repos devraient être planifiés lorsque vous travaillez en ligne, sinon vous risquez de travailler des longues heures.
Les responsables de la santé et de la sécurité au travail exhortent les pays à prendre en compte le bien-être des populations alors que le monde entre dans la période de récupération post-Covid, soulignant que les mesures relatives à la reprise ne doivent pas être appliquées au détriment de la santé des travailleurs. Ils conseillent au gouvernement d'introduire et d'appliquer des lois qui garantissent une limite maximale des heures de travail.
Dans notre série de reportages sur l'état du cyclisme en Afrique, aujourd'hui le Cameroun. Parmi les 54 fédérations sportives que compte ce pays, la fédération de cyclisme est de celles qui parviennent à organiser chaque saison des compétitions nationales et internationales. Malgré cette avancée, les cyclistes camerounais peine encore à se hisser au sommet de la discipline en Afrique. De Yaoundé, la correspondance de Emmanuel Juntap.
Une seule écurie domine le cyclisme camerounais. Il s'agit de la SNH Vélo Club. Les autres cyclistes proviennent des clubs des villes comme Douala, la capitale économique, Bafoussam, à l'ouest du pays, ou encore de la région de la Damawa, dans la partie septentrionale. Bruno Elumou, secrétaire général de la Fédération camerounaise de cyclisme.
La SNH, c'est une équipe qui est quand même sponsorisée par la Société nationale des hydrocarbures. Et ils ont un statut pratiquement semi-professionnel parce qu'ils ne sont là que pour faire du vélo. Et c'est très difficile de trouver ça dans les autres écuries.
Les saisons sportives à la Fédération camerounaise de cyclisme s'enchaînent cependant. Une quinzaine de compétitions nationales et régionales sont organisées par an, avec en prime deux tours internationaux, inscrits au calendrier de l'Union cycliste internationale Africa Tour. Une fois encore, Bruno Elumou, secrétaire général de la Fédération camerounaise de cyclisme.
Il y a deux ans, nous avons eu le privilège d'organiser pendant deux saisons successives le Tour de l'Espoir. C'était pratiquement une mini-coupe du monde des moins de 18 ans. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se targuer d'avoir parfois trois compétitions internationales inscrites au calendrier UCI.
Le Cameroun se distingue aussi par une autre compétition d'envergure, la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun, prévue du 28 mai au 6 juin prochain, soit 8 étapes sur 6 des 10 régions du pays. Cette année, une dizaine d'équipes vont participer. 4 viennent d'Europe et 4 autres des pays africains. Le Cameroun aligne 2 équipes pour la compétition. Le cyclisme au Cameroun doit surtout son rayonnement au soutien que lui apporte le président de la République, Paul Biya, adepte du vélo, et de son épouse, Chantal Biya, Jean-Baptiste Biaillé, directeur de la communication et responsable presse de la FECA Cyclisme.
La seule première dame en Afrique aujourd'hui, épouse d'un chef d'État en fonction, qui est la marraine d'une compétition cycliste.
La fédération est engagée dans une vaste opération de la relève, une tâche à laquelle Dieudonné Ntepe s'est évertué. L'ex-entraîneur national du cyclisme est décédé le 10 mai dernier des suites d'un accident de circulation alors qu'il conduisait l'équipe nationale pour participer au Tour du Bénin. Par ailleurs, un contrat lie désormais la Fédération camerounaise de cyclisme à un partenaire français pour la formation des jeunes dans des centres appropriés. Yaoundé, Emmanuel Jundap, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Elio D'Artagnan, Josèle Morissin et Lionel Namila Gahima. Eric Mandrakidza était à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.